sur lequel j'éprouve le besoin de faire le point, tant à titre personnel que pour voir où nous en sommes en tant qu'Église. Et il s'agit de la question du faire et de l'être. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce que nous sommes ou ce que nous faisons ? Lequel doit être cultivé, aussi bien comme individu que comme Église ? Et il se trouve que c'est aussi un sujet qui est beaucoup abordé en périphérie des enseignements et autres traités sur la croissance de l'Église. C'est une des notions d'ailleurs qui est véhiculée par la terminologie, la formulation « Église missionnelle ». Peut-être avez-vous entendu parler de ce terme « Église missionnelle » plutôt qu'Église missionnaire. Il s'agit moins d'une Église qui part en mission, qui accomplit une mission, qu'une Église qui est par nature une mission pour le monde, imprégnée, investie dans sa mission pour le monde. Une Église qui cultive ce qu'elle est, la mission de Dieu pour le monde, afin que ce qu'elle fait soit le reflet de ce qu'elle est. De tout mon cœur, je souhaite à chacun de vous de s'accomplir dans son travail. Je souhaite à chacun d'entre nous, dans son travail, non pas d'être ce que nous faisons, être des boulangers, par exemple, parce que nous ferions du pain, mais de faire ce que nous sommes, faire du pain, parce que nous sommes boulangers dans l'âme. Et si en plus, nous sommes reconnus pour ce que nous sommes, des boulangers, à travers ce que nous faisons, du bon pain, alors notre satisfaction sera totale. Pouvons-nous appliquer ce principe à nous-mêmes, comme chrétiens, comme disciples de Jésus ? Pouvons-nous l'appliquer à l'Église, la mission de Dieu pour le monde ? Pouvons-nous nous transformer en boulanger de Dieu ? Comment l'Église peut-elle devenir la boulangerie de Dieu ? Où viendront s'achalander tous ceux qui sont en recherche du pain de vie ? Et le texte à partir duquel nous partirons ce matin, c'est celui qui se trouve dans l'Évangile de Luc, un texte bien connu où nous trouvons Marthe et Marie recevant chez elles Jésus, les deux sœurs, Marthe et Marie. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Avec ce texte, nous entrons tout de suite sur le terrain de l'opposition entre action et peut-être ce qu'on pourrait appeler contemplation. Et je prends volontairement ces deux expressions extrêmes pour mettre en évidence le fossé qui existe entre les deux attitudes. Et il est un fait que dans son histoire, l'Église a joué sur cette opposition avec des ordres dits contemplatifs qui assument consacrer l'essentiel de leur vie à la méditation, à la prière dans des monastères retirés du monde, et d'autres ordres apostolique, engagé dans le service concret auprès des pauvres, des malades, de ceux qui sont loin. Et une lecture un peu rapide de notre passage pourrait nous laisser croire que Jésus a choisi son camp, celui des contemplatifs. Marie a choisi la bonne part. Ou encore, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et comme vous vous en doutez, ce n'est pas si simple. J'imagine que vous avez en tête une multitude d'autres passages, de passages bibliques, dans lesquels est dénoncée une foi qui ne serait pas accompagnée d'actes concrets. Et je pense en particulier à l'épître de Jacques. Vous l'avez vu dans, pour ceux qui reçoivent les annonces, le pasteur évangéliste Billy Graham nous a quittés cette semaine. Et si c'est un homme qui a été actif au service de Dieu et de ses contemporains, c'est bien Billy Graham. J'ai regardé ce qu'on trouve sur Internet à propos de sa vie, et particulièrement j'ai été attentif à ce qu'en disent les médias non chrétiens, ce qu'ils ont retenu de son engagement. Et un événement revient souvent dans les discours de ces médias qui les a marqués. C'est celui de, pour Billy Graham, d'avoir refusé à partir de 1953 de prêcher devant un public où noirs et blancs auraient été séparés. Et il semble être admis de tous que ce refus aurait accéléré la fin de la ségrégation dans son État, la Caroline du Nord, un État qui avait pourtant été un État esclavagiste au moment de la guerre de sécession. Et donc, pour les chrétiens, comme pour tout le monde, comme pour tous les autres, Billy Graham a été un homme d'action. Et pourtant, si vous écoutez ces messages, que vous reprenez ces discours, vous vous rendez compte qu'une très large part de ces conseils n'est rien d'autre que lire la Bible et passer du temps avec Dieu dans la prière. Non seulement il le conseille à ceux qui ne connaissent rien de Dieu, mais plus encore à ceux qui veulent le servir et agir en son nom. Nous en lirons un extrait dans quelques instants. Mais revenons à notre passage avec Marthe et Marie, passage Jésus. À la lecture de ce passage, il nous est difficile de ne pas nous projeter sur une ou l'autre de ces deux femmes. Suis-je plutôt Marthe ? Suis-je plutôt Marie ? Et suivant la réponse, quel regard portons-nous sur l'autre, sur celui qui n'est pas comme nous ? Et je vois ça un peu d'ici, vous imaginez une scène où deux observatrices commentent la scène telle qu'elle la voit se dérouler, On va nommer ces observatrices, puis on va les appeler Marthe et Marie, hein, ça sera plus simple. Et j'entends d'ici Marie, « Ah, tu vois Marthe, passer du temps avec Jésus, c'est le plus important. » « Ah oui, rétorque Marie, oui. Et qui va dresser la table et préparer le repas ?»« Ça compte pas, » répond Marie. « Ça compte pas. » Tu crois que Jésus, il n'a pas faim et soif après toute cette route, toutes ces personnes là tout autour qui l'accompagnent ? Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement rafraîchissant tout ce qu'il leur dit, répond Marie avec un regard qui illumine ses yeux. Rafraîchissant, dit Marthe. Et puis dans mon église, on a un projet. Et on voit qu'un des mots d'ordre de notre projet, c'est accueillir. Alors tu vois, Marthe, elle accueille. Et Marie aussi, elle accueille. Comment ça ? Elle accueille la parole du Seigneur. On pourrait continuer longtemps ce dialogue de sourds. Et il est évident que ce sont des sensibilités et des caractères qui se confrontent et que chacune d'elles projette sa propre personnalité sur la situation. Aussi bien dans notre marche personnelle avec Dieu qu'en Église, ce sont des choses que nous vivons au quotidien. Et il faut faire bien attention sur les conclusions, aux conclusions que nous en tirons. Si Jésus donne raison en cet instant à Marie pour son attitude, il ne dit nullement qu'elle n'a pas à aider sa sœur dans les tâches quotidiennes de la maison. Je ne sais pas si elles vivent ensemble, on parle de la maison de Marthe. Bon, bref, il se trouve que là, elles sont ensemble et que de toute façon, elles doivent se côtoyer fréquemment en tant que sœurs. Et en plus, elles ont un frère qui s'appelle Lazare. Si Marie avait systématiquement envie de lire la Bible juste au moment de préparer le repas ou de faire le ménage, ce serait elle qui serait reprise par Jésus. Vous avez sans doute en tête des épisodes où il dénonce le fait de se soustraire à ses obligations spirituelles pour des raisons pseudo-spirituelles, comme par exemple de ne pas porter assistance à ses parents au motif que l'argent qui leur était destiné a été donné en offrande à Dieu. Encore, souvenez-vous, la parabole des deux fils, dans laquelle on voit que celui qui accomplit sa volonté n'est peut-être pas toujours le plus docile. On pense encore à cette déclaration. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Autre chose, Jésus ne met pas non plus en cause l'utilité et la qualité du service de Marthe, qui, comme d'habitude, est probablement impeccable. Et un autre passage va éclairer cette scène. Et nous le trouvons en Jean, au chapitre 12, à partir du verset 1. Je n'ai pas mis le signet au bon endroit. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrait un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre de parfum de nard très pur, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Escariot, fils de Simon, celui qui allait le trahir, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Nous retrouvons les mêmes protagonistes, mais Marthe et Marie, donc, mais il y a aussi Lazare. Lazare, leur frère, très fraîchement ressuscité, vous vous souvenez, après avoir été pas très frais pendant quelques jours. Et bien sûr, Jésus et ses disciples. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que, comme à son habitude, Marie est au service. Marthe, bien, ils suivent. Marthe est au service. Et Marthe va aller plus loin dans l'expression de son amour pour Jésus en accomplissant ce geste hors de sens pour plusieurs, et en particulier pour celui qui a laissé l'argent prendre prise sur sa vie. Et je ne sais pas ce que Marthe a retenu du premier épisode, mais celui-ci doit être un rappel cinglant. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. Vous ne mourrez pas toujours. C'est là que nous comprenons peut-être mieux le sens de son premier propos. Marie a choisi la bonne part, qui veut dire Marie a fait le choix, le bon choix, au bon moment. C'est-à-dire, tant que je suis là près de vous. Et quand nous ménageons dans nos vies personnelles des moments où Jésus peut être écouté, questionné, cela n'enlève rien à ce que nous devons à nos familles, aux autres, à l'Église ou à quelque autre service pour le Seigneur. Jésus n'a jamais négligé les hommes ni sa mission pour entretenir sa relation avec son Père. Et inversement, il n'a jamais négligé cette relation qu'il avait avec son Père au motif de se consacrer plus pleinement à sa mission auprès des hommes. Dans ce domaine-là, il est aussi un modèle à suivre pour la recherche de ce qui nous incombe dans le moment présent. Dans la remarque de Marthe, dans notre premier texte, on perçoit son agacement à l'égard de Marie. Jugeant sur ses propres valeurs, elle estime que non, là, Marie est trop cool. Il est injuste à ses yeux que tout le travail domestique lui retombe sur les épaules. Mais attardons-nous sur les motivations de Marthe quelques instants. En fin de compte, est-ce si dur que ça pour elle de se lancer frénétiquement dans toutes ses tâches? N'est-ce pas là qu'elle sait faire de mieux? N'est-ce pas dans ce service qu'elle se réalise pleinement? Quand elle tient ses propos acerbes sur Marie, n'est-elle pas en train de s'ériger en modèle de ce qui devrait être fait dans ces circonstances? Et là, j'imagine combien a pu être dur pour elle la réponse de Jésus qui renverse son système de valeurs. Alors, entendons-nous bien, que Marthe soit portée sur le service, qu'elle l'ait à cœur, c'est un don de Dieu. Qu'elle utilise ce don pour l'hospitalité, puisque c'est dans ce cadre que nous la rencontrons, c'est une bénédiction pour son entourage et toute la communauté. Qu'elle sache encourager ceux qui ont plus de difficultés pour passer à l'action le moment venu, qu'elle sache montrer la voie à ceux qui n'ont pas son sens pratique, on ne peut, bien sûr, que s'en réjouir. Et il est possible que sur ce terrain-là, c'est Marie qui serait à la peine et qui aurait à apprendre d'elle. Si j'avais dû restituer le texte de mémoire, le premier texte, j'aurais au moins fait une erreur. J'aurais dit, Marie, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien peu de choses. Mais non, le texte nous dit expressément pour beaucoup de choses. Jésus n'est donc pas en train de minimiser les préoccupations domestiques de Marthe, qui sont réelles. Et il veut juste lui faire prendre conscience qu'une autre chose est plus importante dans le moment présent, se tenir dans sa présence. Et indirectement, il le lui redira une deuxième fois, plus tard, en disant « Vous ne m'aurez pas toujours ». Malheureusement pour elle, Marthe s'est engagée dans le faire au point que c'est devenu sa valeur suprême, son mode de fonctionnement. Peut-être même en est-elle arrivée au stade que l'idée de se poser, s'asseoir au pied de Jésus, l'écouter, le questionner, a perdu sa saveur. Elle se plaint d'être la seule à faire bouillir la marmite, mais là, tout le monde se fiche de la marmite. Et alors, elle se sent encore plus investie dans son rôle. Elle, qui est la seule à ne pas avoir déserté le front. Et de cette situation où elle est en décalage avec les autres, elle conçoit de l'amertume. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait tant et tant de choses à recevoir auprès de Jésus. Et parmi ces choses, il y avait la grâce. La grâce l'aurait saisie, comme elle a saisi Marie, alors que là, elle glisse peut-être sans s'en rendre compte vers l'illusion du salut et de l'approbation de Dieu par ses propres œuvres. Recevoir de Jésus ce qui peut accorder avec lui notre être, non pas ce qui glorifiera notre faire. Nous ne connaissons pas la teneur exacte des propos qui ont été tenus dans cette maison, dans la maison de Marthe, ce jour-là, pour toutes ces personnes, mais on peut quand même l'imaginer. Ça pourrait tourner autour des sujets évoqués dans le sermon sur la montagne. Peut-être ce jour-là, Jésus a-t-il utilisé, comme il le faisait souvent, une parabole qui ne nous est pas, qui n'est pas parvenue jusqu'à nous. C'est dommage, Marthe, de ne pas entendre ces choses, de ne les entendre qu'une oreille distraite et lointaine. Il n'est pas question ici de dévaloriser le faire, l'action, l'initiative, le concret. On t'en viendra. D'ailleurs, la vie se chargera de nous le rappeler. Et entre autres, on aborde cette question tant qu'Église, notre bâtiment sera la manifestation concrète de cette nécessité cette année, avec l'autoconstruction dans laquelle nous aurons à nous lancer, qui va nous attendre de pied ferme à partir du mois de mai-juin, si comme nous l'espérons, la vente se réalise. Mais il s'agit seulement de ne pas se laisser dominer par la boulimie du fer, de ne pas se laisser entraîner dans le tourbillon insatiable, dans son tourbillon insatiable, de ne pas se laisser absorber nos pensées par son diktat. Et c'est l'ordre inverse que Dieu nous propose. Nourrir nos actions de sa parole, remplir nos journées de labeur de sa présence, imprégner nos paroles et nos actes de son amour. Et cette pensée se retrouve dans le mot même de disciple. Le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui précède son maître, c'est quelqu'un qui le suit. Je prends le mot suivre dans son double sens, bien sûr. Hein. Marcher dans les pas de quelqu'un, suivre son, et puis le deuxième sens, suivre son enseignement comme on suit un cours, c'est-à-dire régulièrement, attentivement, dans le but d'apprendre. Fort de son enseignement, le disciple marche au même pas que son maître, il fait les mêmes actions que lui, il tient les mêmes discours que lui. Il s'imprègne de lui, nourrit son esprit de celui de son maître, fait sienne ses exigences et s'accorde le même repos et les mêmes temps de renouvellement. Un peu plus tôt, dans l'évangile de Luc, Jésus nous a dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Dans sa culture du résultat tangible, palpable, mesurable, le monde nous incite à croire que seuls comptent les actes, peu importe la philosophie ou la religion qui les inspire. Et nous pouvons facilement nous laisser entraîner sur cette pente glissante, même dans l'Église, même au sein de notre service chrétien, si nous ne prenons pas garde de laisser la parole de Dieu et son esprit remplir nos pensées, être le moteur de nos actions et non leur prétexte. Dans son sermon sur la montagne, Jésus rétablit l'ordre des choses. Et je vous invite à venir dans l'évangile de Luc, au chapitre 6. À partir du verset 46. On va retrouver un verset déjà pour commencer que j'ai cité tout à l'heure. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt elle s'est écroulée, la ruine de cette maison a été grande. » Passage que nous connaissons bien, que les enfants aiment bien chanter. Hein, vous vous souvenez, le chant « Le fou sur le sable bâtit sa maison ». Entendre et mettre en pratique dans cet ordre, et non pas dans l'ordre inverse. Être à l'écoute de Dieu avant de se lancer dans le faire. Alors vous noterez qu'ici, il y a quelqu'un qui est absent. C'est l'homme qui ne ferait rien qu'écouter, le pur contemplatif. Là, il n'est pas là dans cette image. Le second, ici, passe à l'action tout autant que le premier. Mais ce qui lui est reproché, c'est de ne pas mettre en pratique ce qu'il a entendu et de faire tout autrement, selon ses propres pensées. Et Jésus donc n'oppose pas adoration et action, paroles et actes, ou que sais-je encore. Au contraire, il les associe, mais il les place dans un ordre. entendre sa parole et en imprégner notre être, afin que nous soyons capables d'accomplir toutes sortes de bonnes actions. En guise de verset d'envoi, Fabrice nous lira un verset tout à l'heure qui rassemble ces deux choses et les met toutes les deux en relation avec en disant leur importance. Et pour terminer cette prédication, je voudrais vous lire, nous avons parlé de Billy Graham tout à l'heure, je voudrais vous lire le dernier message qu'il nous a laissé le jour de son 99e anniversaire, donc je ne sais pas exactement quand c'était, je crois que c'était au mois de novembre. Voici ce qu'il disait, le dernier message vidéo qui a été enregistré de lui. J'ai prié pour que nous puissions avoir un réveil spirituel. Mais je pense que cela devient possible seulement lorsque les individus renoncent à leur vie et vivent à nouveau pour Christ et vivent la vie chrétienne partout où ils sont. Premièrement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour suivre les pas de Jésus. Nous devons vivre une vie dans laquelle nous nous aimons les uns les autres. Nous nous aidons les uns les autres. Nous vivons selon ce que Jésus a vécu. Saint-Esprit est celui qui nous aide à vivre ce nouveau style de vie qui est celui de l'amour, la douceur et la patience, et toutes ces choses qui sont le fruit de l'Esprit. Devons-nous rappeler que nous communiquons l'Évangile par nos vies comme par nos paroles. Nous vivons devant un monde qui nous regarde, un monde qui attend de voir si ce que nous disons, nous le vivons dans nos vies. Nous devons vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont des vases purs pour le message de Dieu. Deuxièmement, vous lisez sa parole chaque jour, la Bible. Je sais que c'est très difficile, mais vous devez commencer quelque part. Je vous recommande de commencer par l'Évangile de Luc dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament de commencer par le tout premier verset, « Au commencement, Dieu ». Étudiez ces passages. Faites de la Bible votre référence et votre autorité. Citez-la souvent. Que son message devienne votre message. Étudiez-la, méditez-la, apprenez-la, croyez en ses promesses. La parole de Dieu a une puissance en elle-même. Et la troisième chose, mettez-vous à genoux et priez. Priez jusqu'à ce que vous et Dieu soyez devenus des amis intimes. Je ne peux pas vous décrire cette joie et cette paix qui vous envahit lorsque vous avez cette habitude quotidienne de la prière. Y a-t-il un manque de puissance dans votre vie? Peut-être avez-vous négligé la préparation de votre vie en négligeant la prière. Nous avons négligé la parole de Dieu et la nourriture pour nos propres âmes. Quoi que ce soit, confessez-le, abandonnez-le et repentez-vous. Ensuite, marchez dans la puissance du Saint-Esprit et obtenez la victoire. Que Dieu fasse vivre aujourd'hui notre vision et que la puissance de l'Évangile se répande sur le monde avec une force nouvelle, alors que nous sommes obéissants à l'appel du Seigneur de nous repentir et de croire dans l'Évangile. Repentez-vous et croyez dans l'Évangile. Alléluia.